Merci pour la lecture. Une lecture peut-être déconcertante pour certains. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce récit. Peut-être je ne serais pas étonné si quelques-uns parmi nous n'ont pas trop compris ce texte. Qui sont ces personnes au nom bizarre? Que font-elles dans ce récit? Mais surtout, plus important encore, quel rapport y a-t-il entre ce récit et nous, aujourd'hui? Déjà, on peut comprendre relativement facilement qu'il s'agit d'un mariage. On repère aussi peut-être qu'il y a une transaction foncière et on peut être étonné de l'association, de ce que les deux se passent en même temps. Précisons que l'action se passe à peu près au XIIe siècle avant Jésus-Christ. La distance culturelle qui nous sépare des événements qui sont décrits est grande, ce qui explique notre étonnement devant ces coutumes différentes. Mais malgré la distance, Dieu a quelque chose à nous apprendre de ce récit. Tout d'abord, je vous propose d'y voir un peu plus clair et je vais commencer par présenter les acteurs de cette scène. On voit Boaz qui épouse Ruth. Ruth, c'est le personnage central de l'histoire. Elle donne d'ailleurs son nom au livre biblique duquel notre texte est tiré. Ce livre raconte l'histoire d'une famille israélite, Élimélec et Noémie, qui, pour fuir une famine, émigrent dans le pays voisin de Moab. Là-bas, leurs deux fils, Kilion et Mahlon, se marient avec des femmes du pays, des Moabites, mais les choses ne se passent pas très bien pour eux, puisque le père, puis ses deux fils, meurent, laissant derrière eux trois veuves sans descendance. Il n'est pas bon à l'époque d'être veuve, à cette époque où la force de travail est masculine, c'est être dans une situation de précarité. Et plus encore pour une immigrée comme Noémie, qui est là dans un pays qui n'est pas le sien. Elle décide donc de rentrer dans son pays dans l'espoir d'un sort meilleur. Sans doute espère-t-elle retrouver une plus grande solidarité auprès des siens. Et Ruth, par attachement envers sa belle-mère, décide de la suivre. Arrivée en Israël, dans la région de Juda d'où la famille est originaire, elle va se démener pour subvenir aux besoins de sa belle-mère. Elle se met à son service, elle se laisse piloter par elle dans toutes ses actions et le livre raconte ensuite comment elle rencontre Boaz, un propriétaire agricole qu'elle impressionne par son activité et comment un mariage se met en place pour l'intérêt de tous. Pour Ruth et indirectement pour Noémie, c'est l'occasion de sortir de la précarité. Pour Boaz, c'est l'occasion de s'unir à une femme qui l'impressionne par ses nombreuses qualités et par son altruisme. Et puis, c'est aussi l'occasion de redonner vie au patrimoine du défunt Élimélec, parce que dans cette culture, les enfants qui naîtront de Ruth seront considérés comme ceux de Mahlon, c'est-à-dire que la partie, c'est-à-dire qu'il aura une descendance et que la terre qui est restera dans la famille. Mais ça, ce n'est pas le plus important du récit. J'ai dit qu'il avait quelque chose à nous apprendre et il est temps de regarder de quoi il s'agit. Il y a des acteurs importants dans ce récit qui font un monologue assez long, ce sont les témoins. « Nous sommes témoins », disent-ils. Une assemblée de témoins, comme nous, cet après-midi. Ils sont présents pour assister au mariage, attendant peut-être la fête qui va suivre. Mais leur importance, elle est cruciale. Il est nécessaire pour que le mariage soit officialisé qu'ils déclarent de façon solennelle qu'ils en sont bien témoins. par leur déclaration, ils prennent bonne note de ce que les choses changent, de ce que Boaz et Ruth sont désormais liés l'un à l'autre. Le mariage est un acte public. Il faut que tous soient au courant. Mais si on lit bien le récit, on voit que ces témoins font plus que simplement prendre note. Par une bénédiction enthousiaste qu'ils prononcent, ils souhaitent une descendance nombreuse et on comprend par le contexte combien c'est important dans leur culture, une descendance nombreuse et une prospérité matérielle. En fait, ils leur souhaitent tout simplement un bon mariage. Mariage réussi selon les critères de l'époque. Nous tous, assemblés ici cet après-midi, nous tenons nous aussi le même rôle de témoin. À nous aussi, il est demandé de prendre bonne note de cette nouvelle union. Cela implique de la respecter, d'accepter que les choses ont changé, et en particulier de laisser au jeune couple l'espace nécessaire à son épanouissement. En se mariant, ils ont quitté père et mère, et même s'ils gardent leur affection passée, ils changent de solidarité et deviennent l'un pour l'autre les plus proches prochains, devant leurs parents, leurs frères et sœurs ou leurs amis d'autrefois. Et ils nous prennent à témoin. Respectons leurs décisions et le changement qu'elles impliquent. Mais également, comme les témoins du mariage de Boaz et Ruth, nous sommes invités à les bénir. Nous sommes invités à leur souhaiter du bien, à y croire avec eux, à les soutenir. Notre rôle est d'être là et les encourager lorsque c'est difficile, lorsque les différences entre eux se font pesantes, lorsqu'elles deviennent une occasion de chute parce que les événements que la vie leur donne à affronter les poussent dans leur retranchement. Où serons-nous alors? Serons-nous de simples spectateurs attendant curieux le dénouement de l'histoire? Ou serons-nous des soutiens à leur côté? À croire en eux, à assumer ce rôle important de témoin qu'ils nous confient aujourd'hui. Peut-être trouvez-vous qu'il est un peu négatif de voir en ce jour le mariage sous cet angle. Je ne crois pas. Je crois que le mariage est une formidable aventure qui nous fait grandir à bien des égards. Mais je suis aussi réaliste et je me retrouve dans ce que dit l'humoriste suisse Marina Rollmann. Le mariage, c'est un contrat dont la cause principale, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ça veut donc dire que tu signes pour le pire, parce que pour le meilleur, il n'y a pas besoin de contrat. Tu restes. Quand tu es sain d'esprit et que tout va bien, tu continues. Ce défi, pour le meilleur et pour le pire, Mérides et Bénédicte sont prêts à le relever. Je nous pose la question. Y croyons-nous avec eux? Ils comptent sur nous. Mais j'aimerais aussi m'arrêter sur un dernier personnage qui est présent dans ce récit que nous avons lu et que je n'ai pas encore cité. Il s'agit de Dieu. Dieu qui est invoqué par l'assemblée des témoins dans la bénédiction qu'elle formule. Mérides, Bénédicte, Dieu est aussi témoin aujourd'hui de votre engagement. Tout-puissant, il n'a pas besoin d'être invité pour être témoin de nos décisions, mais votre présence ici, votre souhait de nous rassembler dans cette cérémonie prouve votre désir de l'associer à votre engagement. Et soyez-en certain, il répondra à présent et plutôt trois fois qu'une. Le Dieu créateur, notre Père à tous, vous rappelle votre alliance. Le mariage, nous l'avons dit, c'est quitter, s'attacher et devenir. C'est pas un engagement à la carte dans lequel chaque couple y mettrait ce qu'il souhaite, c'est une alliance sérieuse, engageante pour la vie. Dieu vous en rappelle aujourd'hui les termes. Ce qu'il attend de vous en tant qu'être humain s'engageant dans le mariage. Mais il ne vous laisse pas seul pour affronter ce défi. Jésus-Christ, parole de Dieu incarné, a montré le chemin. Et nous en avons largement parlé pendant votre préparation au mariage. Ce chemin passe par la fidélité que vous avez tous les deux citée dans vos vœux. Non pas une fidélité limitant notre liberté, mais une fidélité aux engagements donnés. Ces engagements d'offrir à votre conjoint un lieu où il se sentira en sécurité. Ce chemin passe également par la soumission mutuelle, considérer l'intérêt de l'autre comme prévalant sur le nôtre. Ce chemin passe, nous le savons, par l'amour véritable, celui qui invite à renoncer à soi pour celui qu'on aime. Et peut-être vous trouvez-vous un peu limité pour partir dans toutes ces directions. Les conseils sont bons, mais sommes-nous capables de les appliquer ? Mais Dieu ne vous laisse pas seul à vous dépatouiller entre un commandement impressionnant et un modèle bon mais difficile à atteindre. Il vous offre l'Esprit Saint, sa présence en vous pour vous transformer toujours plus à l'image de Jésus-Christ. Laissez-vous transformer. Il est votre allié le plus précieux, non seulement dans votre mariage, mais chaque jour de votre vie. Méritz, Bénédicte, nous sommes témoins de votre mariage. Nous, plus qu'en prendre note, nous voulons porter haut votre espérance. Nous vous bénissons. Que Dieu vous rende fécond au milieu de ce monde qui a tellement besoin de personnes généreuses et de bonne volonté. Mais surtout, soyez assurés que Dieu se tient à côté de vous et qu'il s'investit dans votre union. Et je vous invite, laissez-lui le maximum de place. Amen. Je vous invite à un temps de recueillement et nous aurons un moment musical.